La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Bienvenue dans la matinale de 19h. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Emmanuel est passé à la télé. Arrêtez tout. Il parle, et il parle pas de n'importe quoi. Il parle d'une loi destinée à encadrer la fin de vie. Et un truc auquel il est hyper sensible depuis qu'il a fêté l'anniversaire de sa femme en avril dernier. Le grand chef a évoqué mardi sur TF1 la possibilité de soumettre la loi au vote des Français en cas de blocage législatif. Waouh, on va voter. Mais alors, il n'y avait pas que ça, parce qu'on vit quand même une grande époque, il faut le dire. Pour parler obésité, il y avait Thibaut InShape venu à travers une vidéo poser des questions au président. Écoutez Macron prononcer le nom de Thibaut InShape, c'est magique. Ça sonne un peu comme un début apocalypse. Badaboum, boum, boum. Imaginons un monde parallèle. Thibaut InShape, ministre des Sports, il oblige Gérard Larcher à faire 100 pompes avant chaque séance. Squeezie, ministre de la Justice avec sa nouvelle loi, qui est l'imposteur. Mon Dieu, je ne suis pas croyant, mais mon Dieu quand même. Et oui, parce que par exemple, un truc vrai, Conor McGregor, irlandais, il veut devenir candidat aux élections présidentielles irlandaises. Un mec qui toute sa vie a été payé pour casser la gueule à des gens, veut maintenant faire que son pays se casse la gueule. Son combat, Conor, il en a plusieurs, il est anti-immigration, homophobe et une grande classique. Il est reconnu coupable de viol par la justice irlandaise. Waouh ! Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai un peu l'impression qu'on pensait que le pire qui pouvait nous arriver, c'était les politiques d'extrême droite au pouvoir. Et non, il y a pire, il y a les personnages médiatiques d'extrême droite. Hanouna tourne autour de la politique depuis quelques temps. Alors imaginons Bardella ou Hanouna. Ça fait froid dans le dos, mais rien ne sert d'envisager le pire quand le meilleur peut encore arriver. Nous ne sommes pas les États-Unis, nous ne sommes pas l'Italie, nous ne sommes pas la Hongrie, nous sommes la France. On y croit, les gars, et on se sort un peu les doigts. Tout de suite, le sommaire de la matinale de 19h. Une chronique de Gauthier vous attend. Le flash info, ce sera avec Francesca. Nous aurons deux zooms. Un dont nous allons parler du festival En Vibration avec Maïwenn. Un avec un artiste, Basile Palace, au micro de Francesca. La grande interview, elle concerne le festival d'histoire populaire. Et c'est avec Hélène dans un instant. Merci d'écouter la matinale de 19h sur le 93.9.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Et il est 19h03 et nous parlons festival d'histoire populaire avec Sébastien Malaprade, donc maître de cérémonie en histoire moderne à l'UPEC, éco-directeur du festival, et Romane Penet, bonsoir, stagiaire chez la boîte à histoire au micro d'Hélène. Bonsoir Hélène, c'est à toi.
Bonsoir, et ben oui Hugo, tu parlais du meilleur, et ben voilà le meilleur qui arrive. Alors un blind test, des guinguettes, un cortège musical, un jeu de piste, c'est la fête pendant 3 jours à Paris et Créteil. Mais est-ce que c'est vraiment un festival d'histoire? J'ai eu un doute en lisant le programme. Romane, vous êtes stagiaire à la boîte à histoire qui organise le festival. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en vrai ce qu'on va y faire?
Bonjour, eh bien, bien sûr, je peux vous en parler un petit peu plus. L'idée, c'est de présenter l'histoire de la fête à toutes les époques, sous des formats très variés, en compagnie de chercheurs et de personnes des arts du spectacle, des étudiants, des scolaires, un public très varié, et de fêter tous ensemble un monde un petit peu compliqué en ce moment.
Eh ben, quelle très bonne idée. Mais est-ce que ça veut dire concrètement qu'on va assister à des conférences,
oui,
ou participer au carnaval ou aller danser?
Il y a des conférences auxquelles assister, des conférences aussi participatives. Par exemple, la fête dont vous êtes le héros, on va vous inviter à choisir, à fabriquer ensemble une fête antique, selon des modèles variés. Il y a aussi des ateliers de danse, effectivement, des danses de guinguettes des années 30 et des danses de la Renaissance aussi, qui seront apprises avec un accordéoniste.
Génial, on a trop envie d'y aller. Alors dites-nous très concrètement, pour tous ceux qui rêvent de ça, peut-être les étudiants en histoire et tous les autres, alors est-ce que c'est payant et où est-ce qu'il faut aller? Comment on trouve le programme? Bref, comment on fait?
Tout est gratuit. Certaines inscriptions sont conseillées sur inscription. Tout se trouve sur le site du festival, donc festivaldhistoirepopulaire.com, et sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook et Blue Sky. Et voilà.
Vous pouvez nous redire juste dans quels endroits ça se trouve?
Bien sûr, le jeudi soir à Paris à la Recyclerie, donc à un lieu associatif. Le vendredi à l'UPEC, l'université qui est co-conceptrice du festival. Et le samedi aux archives départementales du Val-de-Marne et à la Maison des Arts de Créteil.
Très bien. Alors Sébastien Malaprade, vous êtes maître de cérémonie du festival et accessoirement maître de conférence à l'Université de Créteil. Vous êtes co-directeur de ce festival. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce festival d'histoire populaire ? Pourquoi histoire populaire ?
Bah parce que j'aime bien déjà ce mot, qui veut dire plein de choses. Hein. Populaire, c'est populaire parce que on veut inclure le plus de monde, populaire parce qu'on veut offrir des formats accessibles à des publics très très variés. Et donc en ce sens, il rejoint une expression qui est peut-être moins connue, qui s'appelle l'histoire publique, c'est-à-dire comment on rend accessible et on transmet les savoirs à un large public au-delà des cercles un peu poussiéreux des universitaires que je suis. Et populaire aussi parce que en fait, il braque les projecteurs sur des personnes, sur des groupes sociaux marginalisés, moins visibilisés, en tout cas qui échappent à ce grand récit hein, très médiatique qui préfère insister sur les puissants, sur ceux qui dominent quoi. Et enfin une dernière inscription aussi dans des quartiers de banlieue et donc populaire aussi dans ce sens.
D'accord. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que, sauf erreur de ma part, vous êtes un spécialiste de l'Espagne du XVIIe siècle, pas vraiment des classes populaires contemporaines. Donc, comment vous avez fait le grand écart entre les deux sujets ?
Ben, le grand écart, il est lié à ma pratique plutôt enseignante, pédagogique, parce que je gère ce master d'histoire publique qui est le premier en France. Hein, depuis, il a été créé en 2015 par une collègue qui s'appelle Catherine Brise. Et donc, depuis 4 ans, je l'ai repris. Donc, depuis 4 ans, avec les étudiants, on fait des projets de terrain, on rencontre des partenaires, on monte des opérations avec des collectivités territoriales pour valoriser leur patrimoine. Et je me dis qu'il y avait de la matière à faire. Il y a plein d'associations, il y a plein de groupes qui cherchent à faire de l'histoire un peu autrement et que là c'est plutôt ma fibre disons sociale qui avait envie de s'exprimer de ce point de vue là donc en effet c'est ma deuxième casquette mais qui est plus périphérique.
D'accord. Alors Romane, donc vous êtes stagiaire donc à la boîte à histoire qui est l'association qui organise le festival, mais je crois que vous êtes aussi en master.
C'est ça. En deuxième année de master en histoire publique, justement.
Donc précisément le master dont vous nous parliez.
C'est ça.
Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, si vous avez eu d'autres expériences, de ce qu'est l'histoire publique, très concrètement, pour qu'on comprenne ce que ça veut dire ?
Oui, bien sûr. L'année dernière, pendant ma première année de master, avec toute ma promotion, on a fait une exposition qui était une commande de la mairie de Créteil autour de l'histoire d'un de ces quartiers qui s'appelle le Mont-Mélie. Donc on a rendu compte de l'histoire de ce quartier et de ses habitants en interviewant les habitants. Et on a aussi créé un jeu de société à partir de cette histoire.
Donc l'idée, si je vous comprends bien, c'est pas seulement qu'on va, comme un chercheur classique, interviewer les habitants pour récupérer leurs paroles, mais interviewer pour fabriquer avec eux. Est-ce que c'est bien
ça ?
C'est
ça. C'est de la construction de l'histoire.
D'accord. Et donc là, dans le festival, il y aura aussi ce côté, on participe, on fait ensemble, etc.
Oui, exactement. C'est vraiment pas facile à faire, hein. De la co-construction des savoirs, c'est un beau mot, un beau label, mais en fait, ça prend du temps. Ça veut dire qu'il faut connaître les gens, il faut se faire confiance, il faut aussi des protocoles, parce qu'on ne peut pas parler des habitants d'un quartier comme ça. Avec les scolaires aussi, on va faire un super carnaval avec des primaires, des collégiens de Maison Alfort. Voilà, on est venu bien en amont, on est intervenu en classe pour des activités plutôt théorique. Il y a une scénographe qui est spécialiste dans la confession de masques, qui a pris plusieurs reprises, qui est revenue pour voilà, des élèves qui n'étaient pas forcément sensibles. En CM2, je vais mettre un masque sur la tête, qu'est-ce que ça représente pour eux. Et donc, avec l'appui d'ethnologues, d'anthropologues, et puis leurs profs, leurs enseignantes, et ben, on essaye de construire ensemble quelque chose. La directrice de l'école qui arrive avec sa voiture, tout chargée dans le... Donc c'est vraiment à la fois, comme vous le dites tout à l'heure, un peu festival, c'est-à-dire que c'est du bricolage, mais en même temps... Et c'est aussi penser sur le long cours.
Et par rapport à tout ce qui existe sur l'histoire, on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vulgarisation, hein, ça a explosé avec même YouTube, enfin depuis disons 15 ans peut-être, l'histoire s'est beaucoup transformée. Est-ce que vous vous inscrivez dans tout ce mouvement, les jeux de rôle, les YouTubeurs qui vont parler d'histoire, enfin toutes ces pratiques qui ne sont pas les pratiques académiques traditionnelles, mais qui sont le plaisir de faire de l'histoire ?
Elles sont très utiles. On a eu des cours en master sur comment faire de l'histoire sur Internet, par exemple. On a discuté avec des youtubeurs. On sait que... J'ai un ami qui travaille actuellement pour une boîte de jeux vidéo. Donc c'est aussi, oui, c'est ça, prendre du plaisir avec l'histoire et comment donner ses connaissances historiques au public de mille et une façons.
Mais est-ce que le public en a vraiment besoin, Sébastien ? Parce que dans le fond, il le fait déjà, donc.
Ah, il le fait pas. Enfin, il le fait. Il y a quand même. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il n'y a pas de mauvais, il y a pas de mauvaise technique, c'est sûr. Et donc, en ce sens, on peut faire plein de choses avec plein de moyens différents, des podcasts, des jeux vidéo. Mais par contre, il y a des manières de faire l'histoire. Et il faut quand même des règles, il faut des méthodes. Et en ce sens, je corrigeais tout à l'heure avant de venir des copies qui cherchaient à débunker hein, une vidéo YouTube 500 000 vues. Il y a plein d'erreurs. Et voilà, les commentaires sont élogieux. Il faut quand même prendre le temps de pouvoir faire de la bonne histoire. Et en ce sens, il faut aussi des méthodes historiennes derrière.
Donc votre idée, c'est qu'on va allier le plaisir de ces pratiques ludiques avec le sérieux de la méthode historique, c'est bien ça ?
C'est exactement ça. Et puis c'est aussi dans une entreprise plus globale pour contrer des récits idéologiques. On sait que, par exemple, les grands parcs à thème type le Puy du Fou hein, jonglent sur des récits de l'histoire qui sont pas forcément vrais. Il y a des contre-vérités, des alternatives à l'histoire qui sont proposées. Pierre-Édouard Sterrin, il crée des parcs aussi à thème, des jeux de réalité immersive, et c'est pas forcément de l'histoire. Voilà, il faut que les historiens soient derrière pour répliquer.
Bien, merci beaucoup. On continue dans un instant. On fait une petite pause musicale et on continue à parler histoire populaire et de ce festival particulièrement. On écoute une petite musique, c'est Odezen, Mon amour, sur Radio Campus Paris.
Sortir le matin, manger des gâteaux gras, pleurer devant un film et gratter les jeux de hasard. J'aime les garanties, j'aime ne pas avoir le choix. Le pâté de campagne et les caresses du passé. J'aime l'odeur de l'essence, les essences de jasmin. J'aime les flammes habitées et les paysages cramoisis. J'aime ce que procure la gaieté au visage renfermé. J'aime l'espace attendre, l'autobus quand il pleut. Les arbres au printemps, quand les gens y m'appellent monsieur. Manger avec les doigts et aussi casser les œufs. J'aime les battements de cils, les âmes agitées. Le don d'ubiquité et la lucidité. J'aime la couleur du miel et le son des abeilles. Comment elle tue l'ennui, la confiture de groseille. J'aime en kikiner ma mère, l'orientation d'un vent contraire. Quand la musique rend heureux. 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 Oui, oui. Seulement. J'aime la gymnastique, les balades avec toi. Le thym, le romarin et les histoires de princes arabes. Les facettes du cœur, le bel équinoxe d'été. Le lourd poids de la nuit, les envies inopinées. La neige de Montréal et toutes les routes vallonnées. J'aime le style que t'as quand tu me prends dans tes bras. Les baisers volés sans raison, les regards qui parlent tout bas. J'aime les fossettes de ma sœur, les frères qui m'ont assisté. Les rencontres dans le train, les serpents hypnotisés. Les feuilles d'acacia, les faiblesses de chacun. Oui, 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 on aurait dû vivre, vivre, vivre. On aurait pu vivre plus d'un million d'années. Si seulement, si seulement tu. Si seulement, si seulement, oui. Même sans raison d'y aller. Si sûrement, si sûrement que. Si sûrement, si sûrement oui. On devrait écrire. On devrait faire pire. Plus d'un million d'essais. Si seulement, si seulement je. Si seulement, si seulement.
c'est Mamour dans deux années, non pas Mon Amour comme je me l'ai dit avant.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et nous nous retrouvons avec Hélène et à son micro deux personnes, Sébastien Malaprane et Roman Penet. Ils nous parlent d'histoire populaire et du festival d'histoire populaire. Je vous laisse continuer.
Oui, on parle de ce festival d'histoire populaire très alléchant, je dois dire. On va en reparler du contenu. Mais avant, je vais me poser une question. J'imagine que vous, Sébastien, qui êtes enseignant, Roman, je ne sais pas, vous avez dû aller au rendez-vous de l'histoire de Blois, qui est le grand festival d'histoire en France.
Bien sûr.
Voilà. Oui, on emmène les étudiants chaque année, donc on connaît bien. Oui.
Voilà, donc c'est vraiment le festival devenu un peu institutionnel de l'histoire. Alors je voulais savoir, quand vous faites un autre festival, un festival alternatif, est-ce que vous vous opposez? Est-ce qu'il y a un côté institutionnel, vous voulez autre chose? Enfin, qu'est-ce qui fait la différence? Je ne sais pas lequel de vous deux veut répondre.
Ouais, je veux bien répondre. Il y a une, pour résumer, parfois quand on me demande ce que c'est, je dis c'est un peu un anti-Blois, comme ceux qui avaient créé un festival à Vitry qui s'appelait Nous n'irons pas à Avignon, on restera sur place. Blois, c'est un peu la parade des historiens, c'est un peu le festival de Cannes avec les stars et puis ceux qui sont un peu exclus. Et puis il y a aussi surtout dans la Blois quelque chose qui m'a toujours un peu, alors je vais pas discréditer Blois, hein, qui est un super festival aussi, hein, mais par contre le public est quand même très passif, il est relégué à la fin et puis c'est des questions qu'on pose quand on a un peu le temps. Et puis voilà, ceux qui sont souvent des vieilles personnes qui sont retraitées prennent parfois la parole, et encore pas forcément, ou quelques étudiants. Et donc là, en ce sens, c'était un festival plus inclusif qu'on voulait, et puis qui était plus vivant et surtout plus expérimental. C'est-à-dire que dans les tables rondes qu'on a mentionnées tout à l'heure, il n'y en a aucune qui est passive comme ça. Toujours, on fait toujours en sorte d'inclure le public par des jeux de médiation, et il faut venir pour me croire, mais il n'y a aucune conférence traditionnelle, quoi.
D'accord. Et donc, histoire populaire, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est l'histoire aussi par le bas, l'histoire que défendaient les historiens, notamment britanniques, en allant interroger la classe ouvrière anglaise pour en parler autrement, c'est ça? C'est ça aussi,
c'est
votre
origine? D'accord. C'est une des origines de l'histoire publique, d'ailleurs, le fait d'aller vers les habitants pour créer leur histoire avec eux. Donc oui, c'est aussi une des origines de l'histoire populaire.
Il y a une tradition historiographique effectivement qui est héritée de l'Angleterre. En fait, en histoire publique, il y a plutôt un pôle américain qui disait il faut trouver du boulot dans une crise des débouchés, et donc du coup aller investir les entreprises, donc plutôt libéral pour aller très vite, hein. Il y en a une plutôt d'histoire populaire inspirée par le marxisme, où des historiens qui sont liés à une école effectivement marxiste britannique, hein, font des ateliers avec des classes ouvrières, et c'est l'essor de l'enregistrement sonore. Il y a des témoignages, on les fait parler et on essaye de construire ensemble avec l'historien des récits et faire sortir des thématiques, hein, qui sortent pas forcément ailleurs dans les sources. Donc voilà, il y a cette origine dont on s'inspire effectivement dans ce festival.
Et donc ça veut dire que vous allez plutôt mettre l'accent sur les groupes dominés, disons, pour le dire un peu de façon caricaturale, mais dans le fond, est-ce qu'on pourrait pas faire l'histoire par le bas de l'aristocratie, par exemple?
Si, certainement. Je pense qu'il y a certaines pratiques qui pourraient être étudiées, qui sont, par exemple, des hobbies de l'aristocratie, mais qui sont pratiquées par des groupes dominés. Et ça pourrait tout à fait rentrer en jeu.
Oui, et puis j'imagine qu'aller s'implanter pour faire une chasse à cour expérimentale, ça ne sera peut-être pas reçu avec autant d'enthousiasme que le festival d'histoire populaire à Créteil. Alors, petite question, Roman, je me demandais, votre festival est gratuit. Comment est-ce que vous le financez?
On le finance par des subventions, essentiellement. On est notamment subventionné par la région Île-de-France, par l'université aussi, via certains dispositifs de...
Oui, c'est par des fonds publics, hein. Voilà. Là, essentiellement, la Caisse des dépôts et consignations. Mais c'est effectivement, au départ, on avait un apport, hein, de l'université. Il tend à décroître, donc il faut aussi qu'en période de pénurie, on passe beaucoup de temps à chercher des fonds et des financements, hein. Et on est une petite équipe. Il y a Roman, et puis il y a quelqu'un qui est engagé à plein temps. Sinon, nous...
D'accord, vous êtes le festival à vous tout seul, quoi.
On est quatre, avec un collectif derrière pour le comité scientifique, mais on est surtout quatre aux manettes. Ouais.
D'accord, il nous reste quelques minutes et j'aurais bien aimé revenir sur les points forts de ce festival pour allécher tout le monde. Il y a beaucoup de choses, le consentement, les LGBTQIA+ dans la fête, enfin bref, donnez-nous un peu chacun à votre tour, votre best-of, si j'ose dire, genre le truc à pas rater, quoi.
Moi, par exemple, il n'y a pas que d'histoire contemporaine, donc c'est intéressant aussi de faire en sorte que d'histoire antique soit représentée, d'histoire médiévale aussi ou moderne. Il y a par exemple une association avec qui s'appelle Planète Science qui va faire découvrir des fêtes cosmiques en suivant la trajectoire du Soleil. Et donc là encore, c'est un dispositif qu'on imagine pour pouvoir juste faire comprendre un certain nombre de choses essentielles sur la fête, le temps calendaire, le temps du soleil. Et ça, c'est des choses qui sont, à mon avis, intéressantes le samedi. On a une super...
Je vais vous couper, je vais donner par un souci de parité la parole à votre collègue Romane pour lui demander à elle. On a compris, Sébastien, que tout était super et que vous avez envie de parler de tout et on a envie de voir tout. Mais Romane, vous avez un chouchou ou alors une activité incontournable. Allez-y.
Mais je ne vais pas être très originale. Je pense que je vais inviter tout le monde à l'ouverture du festival qui aura lieu jeudi soir parce que c'est un blind test et je trouve que
l'idée
est super.
Ça m'a beaucoup intriguée que c'était ce blind test.
Et oui, on a deux musiciens, deux guitaristes qui vont reprendre plein de chansons, certaines qui ont un lien avec la fête et avec l'histoire de la fête. Et au cours de ce grand blind test, il va y avoir des interventions sur l'histoire de la fête, sur par exemple, sur le carnaval.
Oui, c'est un blind test qui ne faut pas le dire, mais qui est truqué en fait.
Il y a un certain... Le scoop de la matinale. Le blind test était truqué, on l'a dit en avance.
Il y a des chansons qui servent un peu d'hameçon pour pouvoir ensuite analyser des périodes historiques. Ouais.
Et ouvrir ce festival.
D'accord. Et alors Sébastien, comme je vois que vous aviez super envie de parler d'autres, je vous laisse la parole pour nous donner au moins un deuxième point fort.
Ouais, dire simplement qu'il y a pas mal d'activités ludiques aussi. Hein. C'est-à-dire que des modes de narration ludiques, notamment par un escape game qui va avoir lieu sur les fêtes qui suivent les noces, qui est réalisé par Anne-Baptiste Voisin, qui est une ancienne étudiante qui est vraiment hyper inventive. Et là, je pense que ça a lieu le samedi aussi. Il y aura la remise du premier prix du jeu de société historique aussi avec des enfants qui pourront participer.
On a une dizaine de jeux qui ont été nommés pour ce prix.
D'accord.
Et tous les jeux seront disponibles sur place pour pouvoir être testés.
Donc c'est vous qui avez sélectionné cette dizaine
de
jeux.
Je fais partie du jury.
Vous faites partie du jury, c'est super. Et je vais vous demander une dernière question avant qu'on conclue. Romane, est-ce qu'on a le droit au scoop de savoir quel est le thème de l'an prochain ?
Ah non, pas encore.
Eh bien, on reviendra voir ça l'an prochain.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle que le Festival d'Histoire Populaire se déroule le 22, 23 et 24 mai à Créteil. Eh bien, bon courage à vous, on viendra voir ça de très près. Tout de suite, c'est l'heure du Flash Info. On va rejoindre Francesca.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
À toi Francesca, je t'annonce.
Merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On démarre ce flash avec un acte de bravoure en plein cœur de Paris. Donc pas forcément dans les super conditions, mais voilà, hier dans le 11e arrondissement, deux personnes ont été visées par une tentative d'enlèvement en plein rue de Paris. Et il est l'homme à l'extincteur et il s'appelle Nabil. En entendant des cris dans sa rue, il n'a pas hésité une seconde. Donc il sort un extincteur et met en fuite quatre hommes cagoulés qui tentaient de forcer une femme et son époux à monter dans une camionnette. Donc le compagnon de la victime a été frappé, la famille est proche d'un patron de la crypto-monnaie. Alors préparez-vous pour cet été, c'est officiel, on va pouvoir se baigner dans la Seine. Donc un siècle après son interdiction, voilà, la baignade est autorisée à partir à Paris donc, du 5 juillet au 31 août. Trois sites seront donc ouverts au public, le Bras-Marie dans le centre de Paris, le port de Grenelle dans le 15e et Bercy dans le 12e. La maire de Paris, donc Anne Hidalgo, l'a confirmé hier, elle se rebaignera encore et donc dans la Seine dès le 5 juillet. Côté musique, une reconnaissance internationale pour Aya Nakamura, pardon. Hier soir, lors de la cérémonie des Flammes 2025 à Paris, l'artiste a reçu le prix du rayonnement international, donc une distinction qui célèbre son influence, mais comme on a pu aussi voir évidemment sur la scène des JO. enfin un mot en politique. Hier soir, donc, Emmanuel Macron s'est exprimé sur TF1 lors d'une émission spéciale, Le défi de la France. Le président a ouvert la porte à l'organisation des référendums, notamment sur les questions de sécurité, de politique internationale. Et je voudrais rajouter la dernière info que j'ai eue, donc éducation. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, souhaite un droit à la déconnexion pour les espaces numériques de travail des élèves. Pas mal du tout. Donc les objectifs, évidemment, que les notes et les devoirs ne puissent pas être actualisés entre 20h et 7h du matin.
Merci beaucoup Francesca. Quant à vous, restez connectés avec nous sur Radio Campus Paris. C'est l'heure d'une pause musicale avec Caroline, feat. Caroline Polachek, Tell Me, I Never Knew What That.
It always happens. happens, it always happens, it always happens, this 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 always happens,
it always won't be, it always won't be, it always won't be, it always won't be, it always will 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 be.
Tell Me I Never Knew That de Caroline featuring Caroline Polachek.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et nous sommes toujours avec Francesca dans le Zoom et son invité, c'est un artiste un peu particulier.
Oui, alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Basile Pallas. Bonjour Basile.
Et bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Avec plaisir. Alors Basile, 27 ans, ouais. Parisien.
Yes.
Et on dit de toi que t'es un ovni musical.
Ah bon, si vous le dites.
Qui le
dit? Alors aujourd'hui, je te reçois pour la sortie de ton premier album. Ouais. Attention, je me dis premier album, mais c'est pas le premier titre, hein, parce que j'ai quand même pu aller voir. Donc, qui sort le 16 mai, c'est bien ça.
Exactement.
Et qui s'intitule 22 mètres carrés.
C'est exactement ça.
Alors, tu te doutes bien, donc le titre évoque ton espace personnel. Mmh. Comment? Bah dans 22 mètres carrés, comment cet espace justement a influencé un petit peu cet album?
Et bah, pour la petite histoire, le 22 mètres carrés, c'est un truc qui est venu de quand je vivais avec mon père. On avait déménagé un moment et on vivait dans un petit appart dans le 19e à 4, quand mon petit frère allait naître avec ma belle-mère. Mmh. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit mes tout premiers textes, parce que j'étais un peu en colère, ado, je pensais, j'avais envie de parler de 2-3 trucs et tout ça, et de raconter un peu des choses. Et donc ça a commencé comme ça et je m'étais dit il y a 2-3 ans avec un pote, le jour où tu sors ton premier album, il faut absolument qu'on puisse y faire une référence. Mmh. Et ça, il y a une forme de contraste que j'aime bien avec l'idée du Basile Pallas, avec l'idée du Pallas qui implique que ce soit grand, que tout soit bien et que en fait finalement dans 22 mètres carrés on peut faire du Pallas aussi.
J'ai 4 dans 22 mètres carrés.
Ouais putain.
Alors le message est plutôt clair, je trouve quand même, comme le titre de la chanson intro, ça donne tout de suite, je pense, le ton de l'album.
Ouais, grave.
Et je te dis tout à l'heure quand t'es arrivé que ça m'a beaucoup touchée parce la première phrase c'est le bonheur se fait rare. Tu parles de tristesse dans le refrain.
Ouais.
Donc ma tristesse et moi, on s'aimera pour toujours. Alors raconte-moi un peu, parce que je sens que c'est quand même des sujets intimes qui rentrent.
Ouais, ça a l'air triste dit comme ça, mais en fait ça va. Non, mais par contre c'est vrai, je l'ai appelé intro d'ailleurs, ce qui n'est pas le titre le plus original, mais parce que je trouvais vraiment qu'il introduisait l'album et qu'il n'y avait pas trop d'autres noms à lui donner en fait. Mmh. Et donc il y a un peu tous les thèmes qui reviennent, il y a à la fois du rap et un refrain qui est plus pop, donc ça fait aussi une bonne carte de visite de ce qu'est l'album entre les deux. Mmh. Et oui, donc il y a la première phrase qui est le bonheur se fait rare comme tes sourires quand le tonnerre fait rage. Je l'avais écrite il y a un moment où j'étais pas très bien, et puis c'était avant la mort de mon père, malheureusement, qui est un peu au centre de cet album aussi et de ma famille de façon générale. Donc voilà, ça parle aussi de lui. J'ai rajouté 2 phrases à la fin de la chanson qui ont été écrites après sa mort, alors que j'avais écrit la chanson avant qu'il l'avait écoutée. Donc voilà, je voulais absolument la mettre. Et puis la phrase de fin, c'est oui, la tristesse et moi, on s'aimera pour toujours. Mais il y a aussi le palace, c'est ma seule issue de secours. Bien et sûr. Je m'en fous tant que je gagne la course. Donc
ouais, c'est ça.
C'est ça que j'ai envie de retenir aussi. Parce que ouais, la tristesse, il y en aura. Mais bon, on va quand même gagner la course.
Exactement, on gagne. Alors justement, on sent aussi dès ce premier titre. Alors, on dit ovni musical parce que tu mélanges yes. beaucoup rap, pop, rock. Et moi, je suis de Normandie, donc
il y a un mec qui a fait un truc. Je crois.
Un mec qui a fait un truc et je retrouve tout de suite dans l'intro, évidemment. Et donc, est-ce que parce qu'on parle de Eminem aussi beaucoup, c'est ce qu'on dit de toi dans la presse. On parle d'Eminem, on parle de Weeknd.
C'est gentil.
Mais est-ce qu'on peut aussi dire Orelsan?
On peut carrément dire Orelsan en vrai. Je pense que d'ailleurs dans l'approche, si je devais dire quelqu'un qui se balade entre les genres et qui a le rapport que j'ai l'impression à l'intimité et au texte, c'est peut-être celui dont je serais le plus proche aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais bien sûr, il m'a parlé, d'autant plus que je trouve qu'il est de plus en plus fort en vrai. C'est ça qui m'a marqué, moi je l'aimais bien quand j'étais petit, et puis j'ai encore plus aimé après Perdu de l'avance quand il y a eu Le Chant des Sirènes, puis j'ai encore plus aimé La Fête est finie. Peut-être que j'ai préféré La Fête est finie à Civilisation, mais quoi qu'il arrive, la trajectoire qu'il a eue, le fait de ne pas réussir si jeune, il a percé vers 27-28 ans, je crois,
oui,
justement. It's time for me.
Mais,
ça arrive, j'ai le même âge, donc c'est parti, il n'y a pas d'excuse. Mais non, carrément, c'est un très grand artiste, et je pense que c'est un bon exemple en France pour dire qu'on peut très bien concilier la pop, la variété et le rap. Orelsan, il est adoubé par à peu près tous les genres musicaux, et il a prouvé que c'était très facile et que ce n'est pas un problème. Donc moi, parfois, quand on me disait tu fais de la pop ou du rap, etc., je dis en fait, enfin, je fais les deux, mais il y a le plus gros artiste de France qui fait ça aussi, donc ça va, non?
Ça va, ça nous plaît. Moi, j'ai dit, moi, je suis fan de... Alors, j'ai pu voir aussi que ta famille est très impliquée dans tes projets, en tout cas musicaux.
Ouais.
Donc, voilà, justement, c'est comment voilà, cette collaboration justement, influence tout ce qui est créatif. Mais au-delà de ça, parce qu'il y a tes amis, il y a ta maman, je crois, qui fait aussi au niveau de tes clips, le montage. Ton frère.
Mon petit frère qui chante sur le refrain d'une chanson de l'album.
Exactement. Ouais. Alors, raconte un petit peu comment ça se passe tout ça.
Bah, tout ça, bon. Ça fait sens, en fait, assez facilement. Ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de grande idée. Moi, surtout quand j'ai voulu créer le projet en 2019, je me suis dit, bon, bah, moi, je faisais du rap. Parfois, ça me manquait un peu les influences variétés que je pouvais avoir chez moi, les influences pop britanniques, et j'avais envie qu'il y en ait aussi. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, j'ai un pote qui est au CNSM, c'est le Conservatoire National, en jazz. J'avais un autre pote qui faisait de la pop avec un groupe. Ce soir, il joue à l'Olympia, d'ailleurs. Je vais les voir juste après vous. Donc, incroyable. Et c'est fou. Mais, et donc, je me suis dit, bah, faisons quelque chose. On va pouvoir être à la croisée des influences. Je vais respecter les choix des compositeurs, leurs idées. On va essayer de faire un mix. Et c'est l'idée de Basile Palace, c'était l'idée qu'il y avait Basile et le Palace, en fait, plus parce que c'est un projet solo, puisque c'est moi, c'est mon prénom, mais en vrai, moi, je le vis comme un groupe de fous. On est ensemble, c'est que des amis, toutes mes équipes, je fais en sorte, enfin, je fais pas en sorte, je deviens ami avec elles, c'est pas un taf. Mais non, je sais pas si j'en ai besoin, mais je trouve ça tellement plus agréable. Et quand je suis allé faire des concerts il y a pas longtemps avec mon meilleur pote depuis qu'on a 4 ans, qui compose tout, qui est avec moi dans tous les moments de ma vie depuis toujours, et que je lui ai dit, regarde, on est sur une scène, on va à l'hôtel après, on a un petit déj, c'est dingue, c'est incroyable, c'est la folie. Et du coup, voilà, c'est. Donc oui, ma mère, carrément, bah, elle est monteuse au départ, elle est réalisatrice, donc bah, elle a donné un coup de main au début, et puis le coup de main, c'est devenu qu'elle ne lâchera pas, parce qu'on est bien trop proches. Elle chante aussi sur une des chansons, d'ailleurs, qui est sur mon papa, et mon petit frère aussi, et tout ça, ça va ensemble, en fait. C'est que ce soit mes meilleurs amis, ma famille, je ne distingue pas trop. J'essaie de faire ça avec des gens que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup, et puis on essaie de faire ça bien.
Et du coup, est-ce qu'il y a de la place justement pour des collaborations après avec d'autres artistes?
Carrément. Moi, je pense que justement, il y a pas un problème, mais le fait qu'on sache pas trop où je me situe, ça peut bloquer, enfin, ça peut poser la question de quelle chanson on pourrait faire ensemble. Bah, moi, au contraire, je me dis justement, on peut être hyper libre, on peut faire des trucs très marrants. J'ai fait un feat avec une chanteuse qui s'appelle Minette cette année. C'était le premier officiel, parce que je fais souvent chanter des choristes sur mes refrains, mais c'est pas de la composition, on n'écrit pas ensemble. Là, on l'a vraiment écrite ensemble et composé. Enfin, pas vraiment composer la fin avec elle. Mais donc là, c'était pop et ça allait avec mon univers. Mais moi, dans l'idée, ça me fait trop kiffer. Tout à l'heure, il y a ma chef de projet de mon label qui m'a envoyé un message, qui m'a dit j'essaie de trouver un plan là-bas. Et je lui ai dit, moi, j'ai un freestyle drill, si tu veux, j'adore le faire. Si ça convainc le média de le faire, je le fais en live, c'est cool. Et je me dis, c'est plus une porte d'entrée qu'une porte de sortie, en fait, le fait de s'ouvrir à ces trucs-là. Et bah, moi, je rêve autant de faire des films, enfin, avec à peu près n'importe qui, hein, franchement. Enfin, pas n'importe qui, mais genre, je suis très, très open. Là, j'ai fait des concerts avec Yoa, je trouve qu'elle est trop forte. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup, que ce soit dans le rap, dans la pop. Je peux pas en citer un. C'est dur.
Alors, justement, je pense au-delà du. Enfin, c'est vrai que tu te touches un petit peu à tout style de musique. Je vois aussi. Moi, tes textes sont très, très profonds. Avec le recul, je me dis. Je suis un peu plus âgée, on en a parlé tout à l'heure. C'est quand même des émotions qui sont assez fortes. Et on voit dans tes morceaux, notamment d'ailleurs 1000 morceaux, on voit beaucoup d'émotions, de nostalgie. C'est quoi ça vient d'où? Ça vient d'où ça? C'est une rupture qui s'est passée au-delà, on en parlera tout à l'heure après pour le titre 5.
Mais bien sûr.
C'est...
Pas vraiment, en fait. Moi, quand je. Bah, pareil, de la même manière que je disais que Basile Palace était El Palace pour moi, il y a eu un truc où, en fait, j'avais plein d'amis autour de moi. On a vécu un peu tous des ruptures vers cet âge-là, à la vingtaine, quand on sort un peu des premiers de ses études et tout. Et j'avais plein de potes qui, eux, n'écrivaient pas et que je voyais être dans des états pas ouf ou pas bien. Et c'était des histoires différentes, mais c'était les mêmes mots. Et donc, j'ai essayé parfois, vu que moi, j'écris des chansons, d'en écrire certaines qui pourraient parler. Donc, par exemple, dans mon premier EP, il y a Elle s'en fout que tu sois triste. Moi, j'ai pas pensé à moi une seconde en l'écrivant. J'ai pensé à un pote qui était dans le studio ce jour-là, qui allait pas bien du tout. Ouais. Et c'est comme ça que je l'ai écrit. Donc, Moi, le but, c'est une phrase qu'avait dit, je crois que c'était Louis J.P.K. dans un morceau de Columbine, qui avait dit « Elle et lui n'existent pas, je m'en sers pour raconter ce que je vois ». Ouais. Et je trouvais ça super, c'est genre, elle et lui dans ses chansons, c'est tout le monde, c'est personne, et c'est ça qui est fort, c'est que bah, on pourrait pas savoir quelle est l'histoire derrière, et moi le but c'est pas qu'on sache ce qu'il y a derrière les histoires que je raconte, c'est qu'elle puisse les toucher les gens. Mm. Par contre, sur la partie plus biographique que mon album aborde, là oui, là c'est plus, là c'est vraiment moi, et c'est, enfin, c'est pas que l'autre c'est pas moi, mais c'est juste que l'autre, c'est, le but c'est d'être universel. Quand je parle de mon papa, j'espère bien que ça pourra aider des gens, mais c'est avant tout malgré tout quelque chose que je fais pour... Pas pour moi, mais pour mon petit frère, pour ma famille, pour tous les gens qu'il y a autour de moi.
Justement, bah, dans l'album, il y a le titre numéro 5 qui s'appelle « Allez papa ouais. », dans lequel bah, tu racontes vraiment ta journée ce jour-là, ce qui s'est passé. Ouais. Et c'était important pour toi de faire ce titre. Et comment on trouve la force dans ces moments-là qui vraiment, je pense, si on ne le vit pas, il faut qu'il y ait assez dur, je pense, quand même pour...
Bah c'est bah évidemment ça fait partie, enfin personne y échappe, c'est toujours triste, hein, on peut pas se battre contre ça, mais je pense qu'au contraire la musique ça m'a aidé à reprendre beaucoup de force, parce que ça a toujours été le cas pour moi, donc très vite j'ai voulu qu'on fasse des morceaux dessus et que ce soit dans l'album. Après, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai appris qu'il allait à l'hôpital, j'étais en train d'écrire une chanson qui était censée être une chanson d'amour, et puis vu que c'est arrivé pendant, je me suis dit bah ça peut pas être une chanson d'amour, ça doit être une chanson sur lui, et je me suis rendu compte que les chansons de deuil ça marche assez souvent aussi bien pour le deuil amoureux que pour les deuils, enfin pour les vrais deuils, on va dire, et du coup c'était important pour moi. Il y a trois morceaux qui abordent mon papa dans l'idée. Il y a Allez papa, qui est la journée même, Problème de grand avec mon petit frère, qui est une projection de ce qu'aurait pu être notre vie dans un autre monde et avec de l'espoir. Et il y a Lidl qui revient sur mon enfance véritablement avec lui. Donc c'est un peu trois temporalités différentes que je voulais évoquer.
Oui, je l'ai écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup. Alors, du coup, on arrive à la fin de cette interview. Bah, en tout cas, merci beaucoup.
Bah, merci à vous.
Merci vraiment pour tout. Alors, la date de sortie de l'album, donc, c'est le 16 mai 2025. Et on te retrouve aussi sur scène à la Maroquinerie, c'est ça ?
Donc,
exactement. Quelle
date ? Le 9 octobre à Paris.
Et à Paris. Le 9 octobre 2025 à la Maroquinerie. Donc, merci beaucoup.
Merci à vous. C'était super.
Merci beaucoup. Et on écoute un de tes morceaux tout de suite. C'est le morceau intro. C'est le premier de Basile Palace.
Le bonheur se fait rare quand tes sourires, quand le tonnerre fait rage, et quand ton cœur s'évade, quand t'es sous vide, mais c'est retour à la case départ tous les jours. Et je me sens bloqué en bas comme les sous-titres. Si tu voulais que je t'en parle, faudrait tout dire. Et personne n'a le temps pour ça, mais tu sais le pire. Moi-même, ce temps, je l'ai pas, tout part trop vite. Comme les rites de mes remparts, que la vie et la mort dessinent ensemble en attendant. Moi, je vis toujours dans des synopsis, bloqué dans une fausse ironie. La vérité, je suis très sensible et ma patience pas extensible. Je voudrais vivre comme dans des bêtes de films, mais tous les jours, je reste chez moi plutôt que d'aller les vivre. Je rêve de partir, je le dis toujours, pourtant, je suis toujours en plage, je vis pour ma zik tous les jours. Je sais même pas si j'aime vraiment ça, monter tous ces projets, parler à tous ces gens, alors qu'en vrai je crois que je voudrais rien devoir à personne. RDV, des appels pendant que mon père vit toujours dans les mêmes battes éclatées où il marche jamais l'ascenseur. Il vit au 7ème étage, donc faut vite que je l'en sorte tout court. Donc je referai des rendez-vous et j'apprends que les rêves serpentent seuls. Moi je voulais le faire en famille, mais depuis tu sais, chacun sa vie. Et puis tout le monde a grandi et je crois que tout ce qu'on s'était dit, je devais être le seul à y croire, je suis peut-être le seul à y croire toujours. Je suis lent à la détente, moi je mets toujours du temps pour tout, pour oublier les blessures et pour tout recommencer. Moi j'attends toujours que la vie m'apprenne comment faire. Hey. Ma tristesse est moi, on s'aimera pour toujours. Je m'en fous tant que je gagne la course. Maman, je t'ai promis que tout serait plus beau un jour. Le palace est ma seule issue de secours. La tristesse et moi, on s'aimera pour toujours. Je m'en fous tant que je gagne la course. Maman, je t'ai promis que tout serait plus beau un jour. Le palace est ma seule issue de secours. La tristesse et moi, on s'aimera pour toujours. Je m'en fous tant que je gagne la course. Maman, je t'ai promis que tout serait plus beau un jour. Le palace est ma seule issue de secours.
PS, j'ai écrit son un mois avant la mort de mon père. Il savait que je voulais le sauver, il l'avait vu en concert. Maintenant il aura plus besoin de mon aide. Non, non, dorénavant il aura plus besoin de mon aide. Donc je serai très triste pour toujours et je vois plus d'issue de secours. Je crois bien que maintenant je m'en fous pas mal gagner la course.
C'était Basile Pallas avec son titre intro, nous le recevions juste avant.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Et c'est l'heure du Zoom et nous sommes avec Maïwenn. Maïwenn, je te laisse présenter ce qui va se passer.
Merci. Vous êtes pris de d'éco-anxiété et vous vous demandez comment dépasser ce sentiment. Vous cherchez à adopter un mode de vie plus sobre et plus durable. Eh bien, j'ai l'événement qu'il vous faut. Le samedi 24 mai, l'association Envie le Labo organise son festival En Vibration sur le thème de la sobriété enchantée. Pour en parler ce soir, nous recevons Fioana, chargée d'animation et de programmation chez Envie le Labo. Bonsoir.
Bonsoir, ça va ?
Ça va et toi ?
Très bien, merci.
Alors, première question, votre festival ambitionne de donner envie d'être écolo, rien que ça. Vous comptez faire comment du coup ?
Eh bien, très bonne question. On a plusieurs activités autour justement de cette thématique dont tu as parlé, la sobriété enchantée. C'est surtout pour montrer aux festivaliers, participants d'En Vibration, comment on peut faire en fait avec moins mais mieux. Donc plusieurs activités concrétisent ça, comme des ateliers autour de la réparation, réparation d'objets électriques, électroniques, etc., mais aussi de vêtements, de vélos. T'as également des ateliers très stylés autour du bien-être. Donc on va parler forcément éco-anxiété, et ce via des pratiques douces comme le yoga, la sophrologie ou
bien,
encore la méditation.
Vous allez inviter des psys ou des sophrologues justement?
Exactement. Exprès pour ça, ils vont intervenir pour justement explorer tous ces aspects pour sensibiliser justement les jeunes, parce que je l'ai pas dit, enfin on l'a pas dit, mais notre public cible c'est des jeunes de 18 à 25 ans. On fait en sorte que justement ce festival soit gratuit, accessible le plus possible pour notre public, pour qu'ils aient accès justement à toutes ces clés en fait qu'on propose pendant le festival. Donc voilà.
Et justement, pourquoi faire un festival pour les jeunes sur le thème de la sobriété, précisément ?
Très bonne question. Même moi, là, je suis en train de me la poser. Parce qu'en fait, en équipe, on s'est dit, c'est trop chouette. On sait que les jeunes, à l'heure actuelle, ils se réapproprient aussi, on va dire, une nouvelle mode de consommation via la friperie, l'occasion, etc. Mmh. Et là, on s'est dit, on va pousser un petit peu plus loin. Pour que ça puisse être également stylé et voilà.
Ok, merci. Si je ne me trompe pas, c'est votre deuxième édition.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'année dernière ? Si vous changez, je ne sais pas, d'envergure, si vous attendez beaucoup plus de public
Oui, complètement. Bah, l'an dernier, c'était, on va dire, la toute première édition où on a fait un test pour vraiment tout vous dire. On avait notre premier festival parce qu'on a ouvert le lieu en mars 2021. Ouais. On s'est dit qu'il fallait quand même mettre en place un événement qui soit beaucoup plus festif, jovial, et où on est parti sur des petites idées. Donc pour te dire un petit peu vite fait, il y avait toujours un peu cet aspect autour de la réparation d'objets. Mais là, cette année, on est allé quand même plus loin pour parler vraiment écologie de manière beaucoup plus vaste. Donc, il y aura des stands de sensibilisation, notamment sur l'écoféminisme, les low-tech. Okay.
Mais... C'est quoi les low-tech exactement ?
Alors, il y a une définition qui est très précise, mais que je n'ai pas. Mais c'est quelque chose. On va dire que c'est une démarche qui, en fait, contrecarre la high-tech. La technologie high-tech, où on arrive en fait à créer des objets du type cocotte norvégienne, je ne sais pas si ça te parle.
Pas du tout, je ne sais pas si ça parle aux auditeurs et auditrices. Mais
Je ne pense pas, parce que moi quand j'ai découvert ça, ça ne me parlait pas du tout. Mais c'est une manière de cuisiner, on va dire, sans pour autant utiliser de la chaleur et électrique. Donc, on va puiser via des ressources naturelles, okay. comme le soleil.
Ouais.
C'est un temps de cuisson qui est beaucoup plus long, mais voilà, on arrive à, avec cette méthode-là. Je ne peux pas te dire parce que je n'ai absolument pas assisté à une fabrication de cocotte norvégienne. Donc, justement, venez en vibration pour comprendre ces méthodes.
Trop bien. Et justement, donc, tu parles de tous les ateliers. Comment ça se passe ? Tu as parlé de réparation ouais. D'objets. Concrètement, si je veux réparer mon grille-pain, est-ce que je viens avec
tu viens
le 24
avec.
Mai ?
Complètement, tu viens avec, c'est gratuit. On propose à la fois le service de diagnostic. Si on a le temps, bah, effectivement, notre réparateur Stéphane, notre technicien chéri,
Arvid Lavaux. Big up à Stéphane.
Exactement, big up à Stéphane, qui justement pourra te donner des tips pour à la fois réparer toi-même ton grille-pain et même pour d'autres objets qui ne fonctionnent pas chez toi. Donc n'hésite pas, si tu en as un, à le faire réparer.
Ok, merci. Alors oui, je ne sais plus si je l'ai précisé, mais donc le festival il se déroule dans votre asso directement, donc en ville le labo. C'est quoi concrètement ce laboratoire ?
Ce laboratoire, c'est un écolieu qui a été en fait éco-conçu à partir de pas mal de matériaux qui ont été réemployés, recyclés, réutilisés. Et où on s'est dit qu'on allait en fait mettre en avant les actions du réseau Envie à l'intérieur. Donc okay. Le réseau Envie, c'est un réseau de plus de 50 entreprises d'insertion dans toute la France qui a pour cœur de métier donc l'insertion via le réemploi, du moins le reconditionnement d'appareils ouais. électroménagers okay. et ce par des salariés qui étaient éloignés de l'emploi. Donc on les forme, on les accompagne vers justement l'emploi durable. Ils sont accompagnés pendant un an et demi environ. Et effectivement, ils sortent avec un diplôme qui leur permet justement, la plupart du temps, parce qu'il y a 70% de sorties dynamiques dans le réseau, qui leur permettent donc du coup d'obtenir un emploi assez facilement et rapidement.
Ok, trop bien.
Voilà.
Et du côté des consommateurs et consommatrices, donc on peut acheter ou faire réparer des appareils électroménagers chez
totalement, en... totalement. Alors, dans n'importe quelle entreprise Envie, à Envie le Labo, pour justement parler un peu plus des activités, mm-hmm. comme tu m'as demandé tout à l'heure, on concrétise ça comment ? En fait, il y a un magasin d'électroménagers. Comme c'est au rez-de-chaussée, donc on va dire que c'est plutôt un showroom.
Ok.
Avec, juste derrière le magasin, tu as un atelier de réparation, qui est justement tenu par Stéphane, notre technicien. Où en fait tu peux venir faire réparer tes petits appareils électroménagers du type chaîne Hi-Fi, platine vinyle,
et donc ça
etc.
c'est tout le temps, c'est pas juste le 24 mai ou...
Généralement c'est en fait tous les mardis et jeudis. Stéphane okay. il est là tous les mardis et jeudis pour ces services là. Mais effectivement, pendant le festival, il montrera ce qu'il fait exactement et expliquera justement tous ses talents de réparateur quoi.
Okay.
Et en plus de ça, juste dernière petite activité, c'est vrai qu'on propose des ateliers gratuits autour justement du zéro déchet. Donc c'est des ateliers sur plusieurs types de thématiques, à la fois couture, cuisine anti-gaspi, on a des ateliers brico-récup. Enfin voilà, il y a un panel assez énorme pour que tout le monde puisse y trouver son compte.
Ok, trop bien, mmh. trop chouette.
Moi, j'ai une enceinte Bluetooth cassée. Est-ce que je peux l'emmener? On va me la réparer.
Il faut voir avec. Non, tu peux l'emmener, il va te la réparer. En fait, Stéphane, quand il travaille d'ordinaire à Enville Labo, il est un prestataire mm-hmm. qu'on rémunère. Et donc, du coup, vous venez pour.
On lui donne ce qu'on veut ou...
Alors,
un petit bisou, un câlin, on peut lui faire un câlin.
Tu peux aussi, il est très sympa. Mais oui, non, c'est un service payant avec une grille en fonction de votre appareil. Après, on est labellisé Calirépar, donc mm-hmm. C'est un label qui a été mis en place par l'État. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, pas du tout.
Pas du tout.
Alors,
je vous éclaire vite fait. En fait, ça fonctionne vraiment sur plusieurs types d'objets, pas que sur l'électroménager, mais aussi si vous faites appel, je ne sais pas, à un cordonnier, à une couturière ou quoi. S'ils sont labellisés Calirépar, je vous assure, c'est vraiment très pratique parce qu'il y a une réduction directe sur votre facture en fait, en fonction de votre objet. Donc ça, c'est un label mis en place par l'État, comme je disais, et où vous pouvez bénéficier, on va dire, de entre 5 à voire même 40€ de réduction sur la réparation de votre objet.
Trop bien, ouais. Merci beaucoup. Pour rappel, c'est le 24 mai, donc à Enville-le-Labo, dans le 20e arrondissement, de midi à 18h. Et allez-y pour rencontrer Stéphane, du coup.
On a trop hâte de voir Stéphane. Merci beaucoup.
Merci.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Il est l'heure de la chronique de Gauthier. Bonsoir Gauthier.
Bonsoir. Cette semaine, c'est ma 62e chronique sur ces ondes. Et cette semaine, j'aimerais rendre un hommage en chanson. Moi, j'ai vécu toute mon enfance dans une des plus grandes villes de France, dont la beauté n'a d'égal que la grandeur de la capitale. Strasbourg, Strasbourg, toi et ton joli bourg. Strasbourg, Strasbourg et tous les gens autour. Déjà moi tout petit, je me rappelle de mes sorties avec mes petits amis sur la place de la Bastille. On faisait toujours les guignols sur la place du Capitole. Et oui, on a fait des conneries, on fuyait rue de Rivoli. Strasbourg, Strasbourg, toi et ton joli bourg. Strasbourg, Strasbourg et tous les gens autour. On est devenus plus grands et on croquait à pleines dents dans la baraque à frites de Jackie. Ils nous connaissaient tant. Et puis après l'école, comme si on nous jetait un sort, on se retrouve toujours dehors à traîner autour du vieux port. Strasbourg, Strasbourg,
Gauthier,
toi
Gauthier,
et ton joli
bourg. Gauthier, t'as déjà été à Strasbourg?
Strasbourg, Gauthier. Strasbourg, oh oui, Hugo.
T'as déjà été à Strasbourg?
Bah oui, j'ai grandi là-bas, donc je connais super bien. Enfin, moi j'étais dans la rue de Carien, donc je. Voilà, j'ai...
Ouais, parce que depuis tout à l'heure, on donne l'impression que t'as jamais foutu un pied à Strasbourg. Hein.
Quoi? Moi, j'ai jamais foutu un pied à Strasbourg. C'est de ça que t'es en train de m'accuser, Hugo. Alors que j'ai connu Orelsan et Big Flo et Oli avant qu'ils percent parce que j'habitais à côté d'eux. Alors que j'ai zoné avec mes potes pendant des week-ends entiers autour du métro Sainte-Anne.
Oui, c'est exactement de ça que je t'accuse. Oui, il n'y a pas de métro à Strasbourg.
Genre, moi, Gauthier, en plus, je saurais pas qu'il y a pas de métro à Strasbourg, alors que de 1, j'ai quand même grandi là-bas, et de 2, je connais tous les métros de France.
Vas-y, je t'en prie, fais-moi la liste de tous les métros de France.
Super facile. Paris, Rennes, Toulouse, Lyon, Marseille, Lille. Et Strasbourg. Non, merde. Bon, c'est bon, oui, j'avoue, je connais pas du tout Strasbourg, mais moi, je voulais juste faire une chanson touchante, nostalgique.
Bon, Gauthier, tu sais quoi, ton histoire et ton projet me touchent. Je te laisse finir ta chanson avec une dernière phrase si tu parles vraiment d'un vrai truc qu'on peut trouver à Strasbourg.
Ok, merci, merci Hugo, c'est gentil. Strasbourg, Strasbourg, avec ta place Stanislas,
non.
Avec ta cathédrale Notre-Dame,
oui.
De Paris,
non, bah non, du coup.
Avec ton gros Benjamin,
c'est Big Ben,
avec Jordan Bardella,
toujours pas.
Avec ta rue Jean Jaurès,
trop vague là,
avec ta rue du Général Leclerc,
fais un effort petit,
avec ta mairie,
oui, vas-y, dis-le,
de Strasbourg,
oui, bravo Gauthier, oui. On peut l'applaudir, bravo, enfin.
Merci, merci,
merci
beaucoup Hugo.
Merci à toi Gauthier. Et la matinale 19h c'est terminé. Merci à tout le monde, à Delila, à la technique, à Francesca pour le zoom et le flash info, à Hélène et à son invité pour la grande interview, à Maïwenn qu'on a écouté à l'instant, qui était au zoom, mais à la coordination c'était aussi Maïwenn, et à Gauthier pour cette chronique sur Strasbourg. On se retrouve demain à 19h où on parlera dissolution d'urgence Palestine et répression de la liberté d'expression avec Anne-Sabine Barras. À demain sur le 93.9.